Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Oh, ils sont...
We seem to be made to suffer. It's our lot in life.
Chez moi aussi, j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père. Et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. S'il en est ainsi, on comprend la force saisissante d'Œdipe Roy. Chaque auditeur a été un jour en germe et en fantaisie cet Œdipe. Et devant un tel accomplissement, en rêve transporté ici dans la réalité, il recule d'épouvante avec tout le montant du refoulement qui sépare son état infantile de celui qui est le sien aujourd'hui. Partie à l'aventure de son Œdipe, l'équipe des Nouveaux Chemins est Marianne Leia Chassor, Colomba Yoda Grossi, Lucie Obi-Wan Tardy, Antoine Annie Ravon et bien sûr Adèle Padmé Van Rett, avec Midia Dark Portis Guérin à la réalisation, Georges Palpatine Kless à la lecture des textes et à la prise de son dans son Falcon Millennium, Jean-Michel Berlot.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Le temps du péril a commencé pour la rébellion. Malgré la destruction de l'étoile de la mort, l'armée impériale a chassé les rebelles de leur base cachée et les poursuit à travers la galaxie. Après avoir échappé à la redoutable escadrille cosmique de l'Empire, un groupe de résistants mené par Luke Skywalker a établi une nouvelle base secrète sur Hoth, la lointaine planète des glaces. Darth Vador, le maléfique, hanté par l'idée de retrouver le jeune Luke, lance des milliers de sondes téléguidées aux confins de l'espace.
Pourquoi Dark Vador est-il hanté par Luke ? Et pourquoi Luke veut-il à tout prix abattre Dark Vador ? La réponse tient en une scène, en une phrase même. Si Star Wars est un mythe, c'est qu'il semble qu'on en sait la matière de nos rêves les plus cauchemardesques. C'est parce qu'il réalise sur l'écran le pire de nos manières. Si Star Wars est donc un mythe, c'est aussi parce qu'il réussit à puiser le meilleur du tragique, celui d'Œdipe et d'Hamlet. Mais surtout, si Star Wars se fait mythe, c'est parce qu'il parvient à achever et Œdipe et Hamlet en une seule scène, en une seule toute petite phrase.
There is no escape. Don't make me destroy you.
Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Luke, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramèneront l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non. Je suis ton père.
C'est pas vrai! C'est impossible!
Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
Non! Non!
Luke, tu peux détruire l'Empereur. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils.
Bonjour Clotilde Le Guil.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes philosophe et psychanalyste, vous avez contribué au hors-série de Philosophie Magazine. Dans votre article, vous vous interrogez notamment sur cette phrase devenue mythique que l'on vient d'entendre, « Je suis ton père », qui apparaît dans la scène finale de l'épisode 5, L'Empire contre-attaque. Luke découvre l'identité de son père, Dark Vador, et il découvre aussi en même temps que son père est celui qu'il cherchait à tuer. Est-ce qu'on peut y voir une citation explicite du complexe d'Œdipe, Clotilde Le Guil?
Alors, la première chose qui m'a intéressée dans Star Wars, et évidemment ça a des échos avec... la problématique de l'Œdipe telle qu'elle est abordée par Freud et par Lacan, c'est l'effet de fascination exercé par le personnage de Dark Vador. Parce que j'ai lu dans certains articles où George Lucas parlait de sa création, finalement, j'ai lu qu'il témoignait lui-même de la surprise qu'avait été pour lui le fait que finalement Dark Vador soit le personnage qui ait un véritable pouvoir de captivation sur les spectateurs et finalement c'est le personnage de Star Wars, celui auquel les spectateurs, les adolescents, les enfants, les fils s'attachent bien plus que Luke d'une certaine façon. Et pourtant, on peut pas dire que c'est le personnage auquel on s'identifie, mais il exerce un pouvoir de captivation. Donc, j'ai trouvé que cette remarque de George Lucas était intéressante parce que finalement, lui-même a été dépassé par quelque chose dans sa création et ne s'attendait pas à ce que ce personnage qu'on voit assez peu finalement, par exemple, dans le 4, donc le premier chronologiquement, donc Un Nouvel Espoir. Et finalement, c'est lui qui tient la série. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, bon, dans cette scène que vous venez de passer, qui est quand même une scène extraordinaire, même si on en a vu après des versions satiriques, donc elle nous fait rire aussi, mais ce qui est assez extraordinaire dans cette scène, c'est qu'elle condense à la fois le mythe d'Œdipe, pas tant le complexe d'Œdipe que le mythe d'Œdipe. Elle condense le mythe d'Œdipe et la tragédie d'Hamlet, qui sont deux grandes références de la psychanalyse freudienne et lacanienne pour penser la question du père et pour penser le rapport père-fils, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui fait écho à Œdipe? C'est que, finalement, Star Wars nous raconte, en tout cas dans la trilogie, l'histoire d'un sujet, qui est Luke Skywalker, d'un fils, qui ne sait pas qui est son père. Donc ça, c'est une reprise d'Œdipe, puisque toute la destinée d'Œdipe est écrite dans la mesure où il est dans l'ignorance de ce qui lui arrive et où il tue Laios sans savoir que c'est son père. Et Lacan insiste beaucoup sur ce « il ne savait pas ». Il tue son père, mais il ne savait pas.
Il ne le voulait pas.
Il ne le voulait pas, il ne savait pas que c'était son père. Et Lacan insiste beaucoup sur cette dimension pour montrer que cela fait référence à l'inconscient, justement. Ce « il ne savait pas », c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Et d'un autre côté, donc là, dans Star Wars, on retrouve cet effet de révélation qui décile, qui ouvre les yeux de Luke, hein, et qui est en même temps une rencontre avec quelque chose de l'ordre de l'effroi et du cauchemar, hein, au moment où Dark Vador, qui est l'objet de sa haine, qui incarne pour lui l'être suprême en méchanceté, celui qui s'est mis au service de Palpatine, au service du côté obscur de la Force, au moment où donc cet être-là lui dit « Je suis ton père ». Luc lui dit « Tu as tué mon père ?» Il dit « Non, je suis ton père. » Alors là, en quel sens est-ce que ça fait référence aussi à Hamlet? Et c'est très beau parce que ça condense les deux. C'est que Hamlet, c'est une tragédie qui nous raconte l'histoire d'un fils qui doit venger son père, qui a été tué par son oncle, Claudius. Et donc, il s'agit pour Hamlet de tuer l'assassin de son père, de venger son père. Et c'est l'acte qu'il n'arrive pas à accomplir. Et Lacan analyse les raisons obscures pour lesquelles Hamlet n'arrive pas à tuer cet être que pourtant il est et qui est l'assassin de son père. Et donc là, dans la scène que vous venez de passer, de l'Empire contre-attaque, cette scène finale, il y a une sorte de condensation, comme ça, très 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 dense, comme toute condensation l'est, de cette problématique inconsciente, de ce conflit psychique, qui nous montre de quel ordre, finalement, est la fonction du père pour un sujet, et ici pour le fils. Au moment où Dark Vador lui dit « Je suis ton père », il lui révèle aussi quelque chose sur son être à lui en tant que fils, c'est-à-dire que Luke n'est pas non plus celui qu'il croyait être. Et donc la parole de Dark Vador a un effet performatif.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas tant la scène qui est mythique que cette phrase, c'est-à-dire que « je suis ton père », c'est à la fois une sorte de verdict que Dark Vador énonce à son fils, mais c'est aussi une phrase qu'il peut se dire à lui-même, c'est-à-dire qu'il devient père au moment où il l'a dit.
C'est très juste, voilà. Alors ce qui est très beau d'abord, c'est que c'est une phrase, c'est-à-dire que être père, en effet, ce que montre Lacan, c'est que ce n'est pas de l'ordre d'un instinct naturel, ce n'est pas parce qu'on a engrossé une femme, pour le dire simplement comme le dit Lacan, qu'on devient père. Être père, pour Lacan, est de l'ordre d'une assomption symbolique, c'est-à-dire que pour être père, il faut pouvoir dire « je suis ton père » à un enfant. Bon, et c'est par la parole que la paternité s'inscrit et se transmet. Bon. Et ce qui est très beau, c'est que si on se réfère à la façon dont Dark Vador devient Dark Vador, on comprend aussi quelque chose sur finalement, on pourrait dire, sur sa difficulté à être père et sur la façon dont il a interprété la paternité. Pourquoi ? Référons-nous donc à la prélogie et au dernier épisode de la prélogie,
donc,
la revanche
3.
Des Sith. Voilà, l'épisode 3. Il y a cette scène quand même extraordinaire, qui est le pendant de celle que vous venez de passer, qui est aussi forte, qui est le moment où Anakin Skywalker est foudroyé par la lave, enfin brûlé vif par la lave.
Par Obi-Wan, dans un combat avec Obi-Wan.
Dans un combat avec Obi-Wan. Et où finalement, il va être sauvé par Palpatine, en même temps que Padmé accouche, et donc en même temps que lui devient père. Et finalement, au moment où il devient père...
Anakin meurt.
Au moment où il devient père, il meurt en tant qu'Anakin. C'est-à-dire, en tant qu'Anakin, il ne peut pas devenir père. Donc, il rencontre quelque chose, on peut l'interpréter comme ça, disons, il rencontre quelque chose qui fait qu'en tant qu'Anakin, il ne devient pas père parce que, il se trompe sur sa destinée. À ce moment-là, puisqu'il choisit Palpatine contre l'Ordre Jedi.
Mais il choisit Palpatine aussi parce qu'il a peur de perdre Padmé, celle qu'il aime. Il a peur, il a des
il
visions d'elle,
oui.
Des cauchemars, où il rêve qu'elle meure en enfantant. Donc déjà, lui-même a peur d'être père.
Oui, on peut dire qu'il pense qu'un autre peut incarner ce père tout-puissant et la sauver. Il s'en remet à cet autre-là. Et finalement, ce que nous montre la fin de la prélogie, elle se termine là-dessus, et c'est vraiment un grand moment mythique et aussi un grand moment de cinéma, c'est le moment où il se fait un corps de machine, brûlé vif finalement, il devient ce corps de machine, il perd son humanité, il perd son visage, il perd son regard, et quand il marche, le premier pas qu'il fait en tant que Dark Vador s'accompagne d'une parole qu'il adresse à Palpatine, il lui demande... Est-ce que Padmé va bien? Est-ce qu'elle est vivante? Et il lui dit, tu l'as tuée par ta colère. Et là, il pousse un cri, le même nom en quelque sorte que Luke va pousser quand il va lui annoncer, je suis ton père. Il pousse un cri qui est le nom. Un nom d'horreur par rapport au fait qu'il s'est trompé de destinée.
Vous êtes sans doute impatient d'apprendre en quoi consiste ce terrible complexe d'Édipe. Son nom seul vous permet déjà de le deviner. Vous connaissez tous la légende grecque du roi Édipe qui a été voué par le destin à tuer son père et à épouser sa mère, qui fait tout ce qu'il peut pour échapper à la prédiction de l'oracle et qui, n'y ayant pas réussi, se punit en se crevant les yeux dès qu'il a appris qu'il a, sans le savoir, commis les deux crimes qui lui ont été prédits. Cette tragédie est au fond une pièce immorale, parce qu'elle supprime la responsabilité de l'homme, attribue aux puissances divines l'initiative du crime et révèle l'impuissance des tendances morales de l'homme à résister aux penchants criminels. Ce n'est pas à cette morale que l'auditeur réagit, mais au sens et au contenu mystérieux de la légende. Il réagit comme s'il retrouvait en lui-même, par l'auto-analyse, le complexe d'Édipe. comme s'il apercevait dans la volonté des dieux et dans l'oracle des travestissements idéalisés de son propre inconscient, comme s'il se souvenait, avec horreur, d'avoir éprouvé lui-même le désir d'écarter son père et d'épouser sa mère. La voix du poète semble lui dire « Tu te raidis en vain contre ta responsabilité, et c'est en vain que tu invoques tout ce que tu as fait pour réprimer ses intentions criminelles. Ta faute n'en persiste pas moins, puisque ses intentions, tu n'as pas su les supprimer. Elles restent intactes dans ton inconscient. » Et il y a là une vérité psychologique. Alors même qu'ayant refoulé ses mauvaises tendances dans l'inconscient, l'homme croit pouvoir dire qu'il n'en est pas responsable, il n'en éprouve pas moins cette responsabilité comme un sentiment de péché dont il ignore les motifs.
De toi.
Tu m'as manqué.
Maintenant, je suis comblée. Je t'aime.
Reste avec moi, maman. Tout va.
Je t'aime.
Clotilde Le Guil, on vient d'entendre un extrait de l'attaque des clones, c'est l'épisode 2, donc fait partie de la prélogie. Et on voit que, on entend que Anakin n'a pas seulement perdu Padmé, il a aussi perdu sa mère juste avant. Et c'est déjà ce qui va le mener à se tromper de destinée. Et on a entendu juste avant un extrait d'un texte de Freud, dans lequel il explique, donc c'est extrait de l'introduction à la psychanalyse de 1915, dans lequel il explique que le complexe d'Oedipe, c'est à la fois vouloir tuer son père, mais c'est aussi vouloir épouser sa mère. L'amour de la mère, on le sent très peu dans la figure de Luke Skywalker, mais on le retrouve en revanche dans la figure d'Anakin, et notamment dans ce moment où il perd sa mère. Et on a l'impression que pour avoir le complexe d'Oedipe en entier, il faut à la fois avoir Luke et son père Anakin pour avoir le complexe dessiné dans son entièreté, Clotilde Le Guil.
Oui, c'est vrai que c'est une scène qui est cette scène entre Anakin et sa mère, c'est une très jolie scène qui illustre tout à fait ce que Freud pensait peut-être de façon un peu idéaliste du rapport mère-fils. Il pensait que c'était le seul rapport qui était dénué d'ambivalence finalement, le seul rapport qui était véritablement de l'ordre d'un amour, en tout cas, qui comble totalement la mère. Bon, ça, c'était peut-être une utopie freudienne, mais en tout cas, on entend tout à fait ça dans cette scène.
Alors, c'est un petit peu, il faut le dire quand même que là, on a entendu la version française où elle n'arrive pas à dire je t'aime. C'est ça aussi la tragédie d'Anakin, c'est qu'elle meurt en n'ayant pas réussi à lui dire je t'aime en entier. Et en anglais, elle dit I love, et elle ne dit jamais you. Bon, en français, ça ne donne pas la même chose qu'on a je t'aime, mais bon, on ne l'entend pas non plus en entier. Mais il n'y a jamais le you, elle ne désigne jamais son fils finalement, la mère, dans la version originale.
Oui, enfin, disons que sur, pour reprendre un peu la question de la problématique de l'Œdipe, alors ce qui est intéressant, effectivement, on peut dire qu'on retrouve ça d'un côté dans la prélogie entre Anakin et sa mère, et d'un autre côté dans la trilogie entre Luke et son père. Mais vraiment, finalement, pour Freud, la question de l'Œdipe, elle se formule comme une façon finalement de rendre compte de ce que veut dire désirer et devenir un sujet pour un être humain. Bon, du côté fils, on va prendre du côté fils parce que c'est plus simple, on pourrait aborder aussi l'Œdipe féminin, mais c'est pas le sujet de Star Wars. Donc, ce que je trouve bien montré dans la trilogie, c'est que finalement, et c'est comme ça que Lacan réinterprétait l'Œdipe, il s'agit pas seulement de vouloir épouser, même pas du tout finalement, tout ça ce sont des métaphores, il s'agit pas de vouloir épouser sa mère et de vouloir tuer son père à la lettre, ça c'est le mythe qui rend compte d'une dimension symbolique. Pour Lacan, ce dont il s'agissait dans l'Œdipe, c'est d'une trajectoire finalement du sujet, une trajectoire que fait le sujet par rapport à son désir, une trajectoire qu'il fait pour pouvoir accéder au désir. Et en fait, finalement, l'idée de Freud et l'idée de Lacan, c'est que le désir nous confronte à quelque chose de tragique. Il y a une expérience tragique dans le rapport au désir parce que le désir nous confronte à un certain rapport à la mort et à la perte. Finalement, ne peut désirer que celui qui consent à une forme de perte. Alors cette perte, ça peut être la perte d'un être cher, mais c'est surtout pour Lacan une perte symbolique. Et donc finalement, ce que signifie le fait que un fils ne peut pas épouser sa mère, ce n'est pas seulement qu'il ne peut pas épouser sa mère, c'est que finalement il doit consentir à perdre quelque chose de son statut aussi d'être désiré pour pouvoir désirer à son tour. Donc en fait, l'idée de Lacan, c'est que un sujet, pour pouvoir désirer, est soumis à une épreuve qu'on peut appeler une épreuve de castration, mais qui est en fait la rencontre à un moment d'un non. La rencontre d'un nom, d'un nom N-O-N, mais qui est aussi d'un nom N-O-M, que Lacan interprétait comme le nom du père.
Et de la même manière que Luc rencontre le nom de son père, que son père formule très explicitement.
Voilà, son père lui dit, Luc lui dit donc, tu as tué mon père, il dit non, je suis ton père, ce nom a toute son importance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Luc perd aussi quelque chose, peut-être, de ce qu'il croyait lui-même pouvoir être. Et donc, enfin, pour Lacan, voilà, l'Œdipe, c'est une trajectoire qui est à entendre non pas de façon psychologisante, non pas à la lettre, évidemment, dans le rapport aux parents réels, mais qui est à entendre de façon symbolique, c'est-à-dire comme la façon dont un sujet va pouvoir dire « je », puisque à la fin de la trilogie, Luke peut dire « je suis un Jedi » et il peut lui-même dire non à Palpatine qui essaie de le tenter et qui lui dit « vas-y, tue ton père » et Luke lui dit non. En fait, il lui dit non et il peut dire « je », c'est-à-dire qu'il peut parler en son nom parce qu'il a aussi subi en quelque sorte symboliquement une épreuve de castration.
Mais est-ce que Anakin parvient à assumer cette perte qui est la perte de sa mère? C'est-à-dire que vous avez dit juste avant qu'Anakin s'est trompé de destinée, c'est-à-dire qu'il pensait, pour sauver sa mère juste après en fait que sa mère meurt, il tue tous les hommes des sables qui ont justement emprisonné sa mère et qui l'ont amené à mourir, qui l'ont fait mourir. Mais Padmé, finalement, c'est lui qui la tue. Donc finalement, est-ce que lui, Anakin, il arrive à accéder à son désir en assumant cette perte? Finalement, il ne se résout jamais à...
Non, là, oui, tout à fait. La question de la dialectique du désir, on pourrait dire qu'elle se pose pour Luke. Mais en fait, Anakin n'est pas un personnage qui est présenté à partir du désir, sauf enfant, puisqu'il est quand même présenté comme étant doué d'une force particulière qui fait de lui l'élu. Et on pourrait dire que cette force est un peu une métaphore du désir. Il a peut-être plus de désir que d'autres. Mais finalement, on pourrait dire qu'il va être emporté par quelque chose de l'ordre de la haine et donc de l'ordre de la pulsion. Et en ce sens-là, il va d'une certaine façon se retrouver... Enfin, cette armure, elle symbolise aussi une sorte de, disons, de forteresse qui anéantit le sujet qu'il est. Il n'est plus sujet lorsqu'il se met au service de Palpatine. Il devient au service du maître de la mort et il n'est plus lui-même sujet.
Écoutez France Culture, c'est la semaine spéciale héros et c'est déjà le dernier épisode de notre semaine Star Wars en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine. Et pour achever cette saga, j'ai le plaisir d'accueillir Clotilde Le Guil, philosophe et psychanalyste, qui a justement participé au hors-série de Philosophie Magazine et qui nous parle du complexe d'Oedipe revu par Luke et son père Dark Vador. Hamlet de Shakespeare plonge ses racines dans le même terrain qu'Œdipe roi, mais la même matière y est traitée différemment. Dans Œdipe, le fantasme de désir fondamental de l'enfant est mis au jour et réalisé comme dans un rêve. Dans Hamlet, il reste refoulé et nous ne faisons l'expérience de son existence que par ses effets d'inhibition. La pièce est construite sur l'hésitation qu'Hamlet éprouve à accomplir le devoir de vengeance qui lui a été imparti. Le texte ne livre aucune indication sur les raisons ou les motifs de cette hésitation. Qu'est-ce donc qui l'inhibe dans l'accomplissement de la tâche que lui a assignée le fantôme de son père ? Voici la leçon qui s'impose. La cause en est la nature particulière de cette tâche. Hamlet peut tout accomplir, hormis la vengeance qui s'abattrait sur l'homme qui a écarté son père et pris la place de celui-ci auprès de sa mère, sur l'homme qui lui montre la réalisation de ses désirs infantiles refoulés. À l'exécration qui aurait dû le pousser à la vengeance, se substituent chez lui des accusations contre soi, des scrupules de conscience.
Is Darth Vader my father? Yoda, I must know.
Your father, he is.
Est-ce que Dark Vador est mon père? Yoda, je dois le savoir.
Ton père, il l'est.
Il te l'a dit déjà.
Oui.
C'est assez inattendu. Et très fâcheux.
C'est fâcheux que je sache la vérité?
Non. C'est fâcheux que tu te sois précipité vers lui, bien qu'incomplète ait été ta formation. Trop lourd pour toi était le poids de cette tâche.
Je suis désolé.
Souviens-toi, la puissance d'un Jedi provient de la Force. L'agression, elle forme le côté obscur. Une fois que tu t'engages sur le chemin du côté obscur, à jamais il dominera ton destin. Luke, surtout ne sous-estime pas les pouvoirs de l'empereur, ou le même sort que ton père, tu subiras.
Clotilde Le Guil, vous avez parlé tout à l'heure de Luc qui condensait à la fois la figure d'Œdipe et d'Hamlet. On a justement entendu un extrait d'Hamlet. On l'entend ne pas vouloir, ne pas se résoudre à tuer le meurtrier de son père. Puis juste après, j'ai lu un extrait de l'interprétation du rêve, c'est donc de Freud, ça date de 1900. Et dans ce texte, effectivement, il fait le lien entre Œdipe et Hamlet. Où peut-on placer entre Œdipe et Hamlet, Luc dans cette histoire? C'est-à-dire que est-ce qu'il parvient finalement à tuer le père, c'est-à-dire à l'affronter, tout en suivant les conseils de Maître Yoda, à savoir sans tomber dans la colère, sans avoir le même sort que lui, et tout en évitant aussi de tomber dans le mythe d'Œdipe, effectivement, il ne pas le tuer sans le vouloir. C'est-à-dire à la fois le faire de manière consciente et en même temps sans être dans la colère.
Oui, c'est ce parallèle entre Œdipe et Hamlet a été fait par Freud dans l'interprétation des rêves, mais Freud note quand même une différence entre Œdipe et Hamlet. Œdipe, on le disait tout à l'heure, il ne sait pas. Il agit, c'est-à-dire qu'il tue son père et il épouse sa mère, mais parce qu'il ne sait pas. Donc il n'est pas inhibé dans son acte par un savoir. Et Freud nous dit, bon, ça c'est un mythe de l'Antiquité, mais finalement... avec Shakespeare, on aborde quelque chose de la modernité, où finalement on découvre la dimension œdipienne à travers l'inhibition d'Hamlet. C'est parce qu'Hamlet ne parvient pas à accomplir un acte que pourtant il désire accomplir, c'est-à-dire venger son père, que cette impossibilité est à interroger comme une énigme. C'est une énigme pour Hamlet lui-même. Hamlet ne saisit pas pourquoi, alors que le spectre de son père est venu au début de la pièce lui dévoiler qui était son assassin, que son assassin était Claudius, son oncle, pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à obéir à cette injonction du spectre, à cette injonction de son père qui lui dit « Mais venge-moi, Hamlet, toi, mon fils qui m'aime, venge-moi ». Et l'interprétation que Lacan fait dans le séminaire sur le désir et son interprétation, le séminaire 6, c'est que finalement, il le fait après Freud, c'est que si Hamlet ne parvient pas à accomplir cet acte, c'est pas tellement qu'il est dans la procrastination ou dans l'hésitation, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cet acte qui rencontre en effet son désir d'une certaine façon, et c'est-à-dire son désir de prendre la place du père dans l'amour de la mère. Mais Lacan va plus loin. Lui, pour Lacan, ce qui se passe essentiellement pour Hamlet, c'est qu'il ne saisit pas comment sa mère a pu ainsi épouser l'assassin de son père. Et finalement, sa mère est en quelque sorte cette... Elle incarne, c'est elle qui incarne presque l'être suprême en méchanceté, parce que c'est celle qui s'est couchée dans le même lit que Claudius alors que le repas des funérailles du père n'était pas encore refroidi. C'est la phrase de Shakespeare. Donc ça, c'est la problématique d'Hamlet. Avec Luc, qu'on retrouve et qui est commun finalement aussi bien au mythe d'Oedipe que à la tragédie shakespearienne, ce qu'on retrouve, c'est cette problématique de la perte et de la castration. Parce que à partir de quel moment, finalement, Luc va pouvoir se sortir de ce conflit, va pouvoir advenir et dire « je suis un Jedi », eh bien, il y a un moment, il y a un temps logique nécessaire qui est incarné par une blessure que lui inflige le père à la fin de l'Empire contre-attaque lors de la confrontation entre père et fils. Cette blessure, c'est le moment où le père, avec son sabre, lui tranche la main. Donc, il y a une partie de son corps, une petite partie qu'il perd, et qui symbolise finalement cette perte qui est nécessaire aussi pour entrer dans cet ordre qui va le faire sujet lui-même.
Et cette perte, je propose qu'on l'entende maintenant.
You have learned much, young one.
You'll find I'm full of surprises.
Tu te défends bien, jeune homme.
Vous verrez que je suis plein de surprises.
Destin est lié au mien, Skywalker. Obi-Wan le savait.
Non.
Tu es vaincu. Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.
Clotilde Le Guil, Lacan, dans un texte de 1960 qui s'appelle « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien », dit du complexe de castration que c'est le ressort majeur de la subversion que nous tentons d'articuler avec la dialectique du désir, qu'il était inconnu jusqu'à Freud qui l'a introduit dans la formation du désir, et que ce complexe de castration qui avait été ignoré pendant des années, en fait avait été ce manque qu'on n'arrivait pas à saisir, qui n'avait été que contourné sans cesse parce qu'on ne parvenait pas à mettre la main ou à mettre des mots dessus. Et finalement, c'est ce qu'on voit dans cette scène à la fin de l'Empire contre-attaque, donc qui précède juste la déclaration de Dark Vador à son fils, je suis ton père. On voit donc Dark Vador qui coupe le bras à son père.
À son fils,
pardon.
Oui, oui, parce qu'effectivement, si vous faites ce lapsus, c'est pas grave. C'est parce qu'effectivement, à la fin de la trilogie, en effet, Luke va aussi couper le bras de son père. Mais là, effectivement, moi, je trouve que c'est une scène intéressante puisque vous avez cité la référence à la castration. J'avais retenu une petite définition de la castration que Lacan donne dans le séminaire 5. Il dit « La castration, c'est un acte symbolique » dont l'agent est quelqu'un de réel et dont l'objet est imaginaire. Bon, alors ça paraît un peu complexe comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que Lacan insiste à cette époque-là de son enseignement sur la castration ? C'est parce qu'il veut montrer qu'il ne s'agit pas d'une frustration, de quelque chose qui nous manque et qu'on pourrait réclamer véritablement comme ça à l'autre, comme un objet qu'on pourrait nous rendre. Il veut montrer que ça se situe à un autre niveau, que ça se situe à un niveau symbolique. Et donc, cette scène entre Luc et son père, elle est intéressante, même si elle est peut-être un peu simplifiée du point de vue de la problématique, mais elle est intéressante parce que justement, il y a cette blessure hein, qui est infligée au fils par le père et qui est finalement le symbole de l'effet du nom du père. L'effet du nom du père sur le sujet et sur le désir et de l'ordre d'une perte. Et en même temps, cette perte, elle est essentielle pour pouvoir advenir en tant que sujet, pour pouvoir dire « je ». Et c'est ce qu'on voit dans cette scène.
Et alors, pourquoi cette perte, elle est si essentielle ? C'est-à-dire que c'est ce qui arrive à Anakin, finalement, il n'arrive pas à l'assumer avec sa mère. avec la perte de sa mère. Et Luke lui parvient à l'assumer, mais qu'est-ce qui fait que la perte permet de... C'est quoi? C'est la perte de vouloir ressembler à son père, de vouloir rechercher son père?
Il y a deux dimensions. Il y a d'abord le fait que, finalement, pour Lacan, cet effet du père n'est pas à prendre comme émanant directement de la personne du père. C'est un effet qui vient du grand autre, c'est-à-dire c'est un effet qui vient du langage. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle, on est soumis à la loi du langage et donc on est soumis, si vous voulez, à une loi qui nous a précédés, à un discours qui nous a précédés et qui nous survivra, à une dimension symbolique qui nous traverse et dont nous ne sommes pas les maîtres. Donc c'est l'idée finalement que pour être sujet, il faut s'inscrire dans la parole, il faut pouvoir se situer dans le langage, et se situer dans le langage, c'est être soumis à la loi du grand autre, et Lacan va jusqu'à dire finalement que, eh bien, la loi du langage et la prohibition de l'inceste, c'est la même chose finalement. Il reprend la prohibition de l'inceste telle que Claude Lévi-Strauss l'a déployée dans les structures élémentaires de la parenté, et il dit finalement, moi ce que je vous dis sur... la loi du langage et la façon dont je réinterprète l'inconscient à partir de la loi du langage et ce que vous dit Lévi-Strauss sur la prohibition de l'inceste, c'est la même chose. Et on retrouve ça aussi dans Star Wars et dans la fin de la trilogie, puisque au moment où Luke va avoir la confirmation par Maître Yoda, la presque confirmation, que Dark Vador est bien son père, c'est-à-dire que Dark Vador ne lui a pas menti lorsqu'il lui a dit qu'il était son père, il va saisir en même temps, par l'allusion de Yoda, qu'il y a un autre Skywalker. Donc, que Leia, dont on pouvait se poser la question si lui qui était amoureux d'elle ou pas, Leia
oui,
et
sa sœur.
Il y avait
une sorte de rivalité entre Han Solo
Luke et Leia. Voilà. Et donc, finalement, c'est intéressant de voir qu'en même temps qu'il se situe dans une lignée comme étant le fils de Dark Vador, et en fait le fils d'Anakin Skywalker devenu Dark Vador, eh bien, il est soumis à une loi qui est celle de la prohibition de l'inceste parce qu'il devra céder Leia, sa sœur, et finalement Leia épousera Han Solo. Enfin, épousera, en tout cas, sera aimée par Han Solo.
Luke, aide-moi à retirer ce masque.
Mais vous allez mourir.
Rien ne pourra l'empêcher maintenant. Pour une fois, laisse-moi te regarder avec mes propres yeux.
Laisse-moi. Non, vous allez venir avec moi. Je ne vous laisserai pas ici, il faut que je vous sauve.
Mais tu l'as déjà fait, Luke. Tu avais raison à mon sujet. Dis à ta sœur que tu avais raison.
Je ne vous abandonnerai pas.
Clotilde Le Guil, c'est une scène magnifique qu'on vient d'entendre. Elle clôt la trilogie, donc c'est l'épisode 6. Dark Vador a sauvé son fils, finalement, et puis on entend Luke qui dit « Père, je ne vous abandonnerai pas ». À son tour, Luke nomme son père, finalement. Il parvient à le nommer lui aussi.
Oui, alors effectivement, dans cette scène, il y a d'abord cette phrase de Luke au moment où il est foudroyé par Palpatine. Cette phrase qui est un appel au père. « Père, je t'en prie. Je t'en prie, sauve-moi. » Bon, alors... pour Freud et pour Lacan, cette phrase, elle est fondamentale, mais la plupart du temps, elle est plutôt ce qui introduit le sujet à une détresse profonde. Parce qu'en fait, ce père qui peut nous sauver, il n'existe pas. Donc, c'est plutôt, finalement, de traverser cet effet de délaissement, d'Hilflosigkeit, disait Freud, qui permet d'advenir comme sujet. Ici, il y a l'idée que ce père qui sauve existe. Et donc, en ce sens, il y a eu des analyses pour dire que dans Star Wars, il y avait quelque chose d'une ode faite au père, d'un amour pour le père. Bon. D'un autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est ce moment incroyable où Luke ôte à son père, à Dark Vador, son masque. Ce moment où on découvre le visage brûlé, ce qui est devenu ce visage brûlé.
Et le regard.
Et le regard, parce qu'effectivement, son père lui dit « Laisse-moi te regarder avec mes propres yeux ». Alors moi, j'interpréterais de la façon suivante. Je dirais que jusque-là, Dark Vador, il interprète donc ce grand autre tout-puissant, qui est cette respiration inquiétante dont on ne saisit pas bien les intentions, cette présence menaçante et qui angoisse l'autre, et surtout une présence sans regard. Donc, on ne saisit pas quelles sont ses intentions. Et au moment où Luke lui ôte son masque, on pourrait dire aussi qu'il y a quelque chose de cette figure du grand autre tout-puissant qui chute. Quelque chose dont Luke est délesté, et finalement, il est confronté au regard d'un homme qui n'est plus ce grand autre tout-puissant qui l'effrayait. Il est confronté au regard d'un être humain qui lui-même s'est retrouvé piégé dans sa propre destinée. C'est une belle scène aussi, parce que la question de la mort du père, elle est fondamentale dans l'invention de la psychiatrie. Analyse, puisque Freud a écrit l'interprétation des rêves juste après avoir perdu son père, et que cette perte finalement a été l'occasion d'un certain nombre de rêves, de cauchemars que Freud a retrouvé aussi chez ses patients dans sa clinique. Et donc effectivement, la question du père mort et de la façon dont on affronte en fait cette expérience du père mort, elle est fondamentale par rapport à la problématique du désir.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que en découvrant son père, au moment où, de la même manière qu'Anakin, au moment où il devenait père, mourait en fait et devenait Dark Vador, de la même manière, Luke, au moment où il retrouve son père, cette fois-ci, c'est son père qui meurt vraiment, complètement. Et on retrouve ici, c'est en ça peut-être que Luke et son père achèvent Œdipe et Hamlet, c'est-à-dire que Luke, en retrouvant son père, le tue, mais tout en ayant refusé de le tuer. C'est-à-dire que finalement, il lui enlève ce masque, il le découvre, Dark Vador disparaît, et son père aussi, Anakin aussi, la triple figure disparaît. Et à ce moment-là, en fait, Luke a réussi à vaincre son père, à tuer le père, mais sans être passé à l'acte.
La figure qui est fondamentale, c'est le troisième homme, c'est Palpatine, dans cette symbolique. On pourrait dire que Palpatine, c'est pour employer un concept lacanien, c'est un peu l'autre de l'autre. C'était l'autre du grand autre. Et donc finalement, si Luke n'a pas cédé sur son désir, pour reprendre une expression de Lacan, c'est qu'il n'a pas cédé non plus aux sirènes de Palpatine. Il ne s'est pas laissé tenter par Palpatine qui essaie finalement de le pousser du côté du passage à l'acte, de le pousser du côté de la haine et qui essaie finalement d'opérer sur lui la même métamorphose que celle qu'il a opérée sur Dark Vador. C'est-à-dire que Palpatine, c'est celui aussi qui a nommé Dark Vador une deuxième fois et qui lui a fait perdre son nom initial. Donc c'est vrai que c'est assez beau cette scène finale, parce que c'est cette finale de la trilogie, parce que finalement, c'est ce nom aussi de Dark Vador qui est en quelque sorte effacé par cette expérience du regard entre le père et le fils, où Anakin, d'une certaine façon, redevient, disons, un père et non plus le père.
Et est-ce qu'on peut dire que Luke a été plus fort que son père, a dépassé son père, c'est-à-dire qu'il a réussi ce que Yoda tentait de lui dire dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir ne fais pas comme ton père, ne tombe pas dans la même colère, ne viens pas en fait à bout de lui avec de la colère. Est-ce qu'il a réussi à justement à se départir de ses passions, ce que Anakin n'a pas réussi à faire en se vautrant dedans et en fait en décidant de suivre sa peur et sa colère en devenant Dark Vador?
Oui, on peut dire ça comme ça. Disons que ça maintient un peu les choses sur le plan de la rivalité, de dire que Luke a dépassé son père. Moi, ce que je trouve beau, justement, c'est qu'on est quand même dans quelque chose de plus dialectique. On sort un peu de cette confrontation duel, parce que finalement, il y a Luke en tant que sujet, Dark Vador en tant que grand autre, Palpatine en tant que figure de la mort absolue et en même temps de la force suprême. Et finalement, l'histoire de Luke, c'est la façon dont il va sauver, peut-être dont il va sauver la parole elle-même, le statut de la parole, en ne cédant pas à Palpatine qui l'invite à aller du côté de la pulsion et du côté de la haine. Et finalement, c'est davantage de cette façon, disons, plus dialectique que j'analyserais cette scène finale, plutôt que dans une confrontation qui dirait que Luke l'a emporté sur son père. En même temps, il renaît parce que il y a quelque chose aussi du regard de son père qu'il peut pour la première fois affronter.
Effectivement, il a le regard, mais aussi la parole. C'est les derniers. C'est le moment où il se parle vraiment, en fait, en se regardant dans les yeux.
Voilà, c'est ça. Il y a cette parole avec en même temps derrière cette mythologie qui vient aussi de l'histoire du christianisme, l'idée du fils qui pourrait sauver le père, en quelque sorte.
Merci beaucoup Clotilde Le Guil d'être venue nous parler de Star Wars et de cette phrase mythique « Je suis ton père ». Je rappelle que vous avez contribué aux hors-série de Philosophie Magazine avec qui nous sommes en partenariat toute cette semaine. Votre article s'appelle « Le grand méchant et le petit autre ». Et puis je rappelle également que l'on peut lire de vous « L'être et le genre, homme-femme après Lacan » paru au PUF. Et c'est la fin des Nouveaux Chemins et de notre semaine Star Wars, mais vous pouvez réécouter cette émission et toutes celles de cette série et même toutes celles de cette année en allant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins pour les écouter en ligne ou les podcaster. Et vous y trouverez également toutes les références bibliographiques et musicales de chacune de ces émissions. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins. Et demain, pas de Nouveaux Chemins justement en raison de la messe de Noël, mais dès lundi, Adèle Van Rett reprend les commandes du vaisseau et évoquera pour vous Pascal, de sa métaphysique à la justice, en passant par la science et l'imagination. Et il est 10h54, bonne fête à tous et bonne journée sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde, présenté cette semaine par Xavier Martinet.